secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Les racines du ciel. Une émission de Lilian Var avec la participation de Frédéric Lenoir, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Thierry Beauchamp. Aujourd'hui, nous diffusons une émission des Racines du Ciel enregistrée au Salon Écriture et Spiritualité qui s'est tenu cette année à Lyon le 4 octobre. Je remercie d'ailleurs ce salon de nous recevoir, Colette Nismazur, Jean-Marie Guelette et moi-même, pour parler d'un très beau sujet s'il en est, la beauté. La beauté comme chemin de vie, la beauté comme épiphanie. Nous allons parler de la beauté, certes, mais pas dans le sens que donnent à ce mot, évidemment, les magazines de mode. Pas dans le sens superficiel ou artificiel du terme, comme on le fait parfois pour des mots aussi galvaudés que amour ou fraternité. Nous ne parlerons pas non plus de la contemplation des œuvres d'art et des spectacles grandioses de la nature, non. Nous parlerons de la beauté comme épiphanie dans l'apparente banalité du quotidien ou la simplicité minimaliste de quelques mots brodés ensemble. Il s'agira de la beauté comme temps, comme lieu, comme geste, comme parole, qui deviennent autant de manifestations de la vérité humaine, qui n'est autre, au fond, que la vérité divine, de l'invisible qui nous dépasse infiniment. La beauté comme instant de révélation du bien au cœur du mal, de la lumière dans les ténèbres. Et pour parler de cet immense sujet, nous sommes en compagnie d'une poétesse et d'un philosophe théologien, Colette Nismazur, vous nous venez de Belgique comme une preuve vivante, s'il en fallait une, que la Belgique nous a donné tant d'artistes et de poètes qui ont contribué de manière décisive à l'histoire de la littérature française et à l'élaboration poétique dans notre langue commune. Longtemps professeur de lettres, j'aurais beaucoup aimé vous avoir comme professeur, vous animez aujourd'hui des ateliers d'écriture, vous donnez des conférences, enfin, je dis des conférences, pour vous avoir vu quelquefois dans ce que vous appelez conférence, je dirais plutôt qu'il s'agit d'offrandes poétiques, et vous vous consacrez donc à l'écriture, en particulier à l'écriture poétique. Auteur de nombreux recueils de poésie, mais aussi d'essais, vous avez publié, par exemple, ou notamment, « Célébration du quotidien » chez Desclée de Brouwer, « La chair du poème », »,« Petite initiation à la vie poétique » chez Albin Michel, « Dieu au vif » chez Mediapol, et en 2015, donc, « La vie poétique, j'y crois » chez Bayard. Autant dire que vous vivez au quotidien l'expérience épiphanique de la beauté exprimée sous sa forme poétique. Jean-Marie Guelette, vous êtes religieux dominicain à Lyon, docteur en médecine et en théologie catholique. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lyon et directeur du Centre interdisciplinaire d'éthique de cette université, ainsi que professeur à la faculté de théologie. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur des sujets très divers, mais toujours reliés entre eux par une triple réflexion sur le corps, la foi et la relation. Vos recherches actuelles portent sur les quêtes contemporaines de guérison, les nouvelles formes de thérapeutique comme l'ostéopathie, sur laquelle vous avez publié « L'ostéopathie, une autre médecine » auprès de l'Université de Rennes. Et par ailleurs, vous vous intéressez aussi à Maître Eckhart, à la prière silencieuse dans la tradition chrétienne. Vous avez publié sur ce sujet « Petit traité de la prière silencieuse » chez Albin Michel. Et enfin, sur la beauté, vous avez publié en 2014 aux éditions du Cerf un très beau livre, précisément, dont la lecture m'a vraiment captivée et m'a fait réfléchir sur le rapport entre, en fait, une très ancienne idée qui est le rapport entre la beauté et le bien. Et cet ouvrage s'intitule « La beauté d'un geste ». Alors, on va peut-être commencer par le commencement, Jean-Marie Guelette. Comment on pourrait définir la beauté ?
La beauté, moi, je ne l'ai abordée que dans la perspective de la beauté d'un geste, c'est-à-dire comme vous l'évoquiez, je me suis rendu compte qu'assez vite, la réflexion n'était pas tant dans l'ordre de l'esthétique que dans l'ordre de l'éthique. Et puis, j'ai trouvé que assez vite apparaissait aussi quelque chose de l'ordre de la justesse. Je pense qu'on peut parler de beauté dans le geste, ce qui n'est pas la même chose que la beauté dans le corps. Mais la beauté dans le geste, elle surgit, elle se manifeste quand quelqu'un est juste. Et ce qui veut dire que paradoxalement, même quand il se prend les pieds dans le tapis, ça peut être très beau. C'est-à-dire que même, oui, je pense que quelqu'un qui est dans un moment de vulnérabilité et qui ne le cache pas, on peut être saisi. Je me souviens à une époque, je formais de futurs prêtres à la prédication et on regardait des émissions de la messe à la télévision et on avait regardé, je sais plus qui c'était, peu importe, type qui crevait l'écran, une bête de scène, quoi, quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience. Alors les séminaristes étaient pleins d'enthousiasme. Et puis juste après, je leur passe, c'était très nettement un jeune prêtre qui prêchait pour la première fois à la télévision. Il tremblait tellement qu'on voyait le pupitre qui tremblait, tout tremblait, etc. Et là-dessus, il fiche ses papiers par terre. Donc c'était vraiment, au point de vue télévisuel, c'était une catastrophe, ce bonhomme. Sauf qu'il prêchait sur la vulnérabilité. Et que ça, pour le coup, ça crevait l'écran. C'était bouleversant de voir qu'il prêchait sur la faiblesse et qu'il ne dissimulait pas sa propre fragilité. Et paradoxalement, c'était très beau. Donc je crois que finalement, cette histoire de justesse dans ce qu'on donne à voir de soi, c'est peut-être une assez bonne définition de la beauté dans le domaine que j'ai un peu travaillé. Ce n'est pas un traité d'esthétique que je vous fais là.
Oui, non, d'ailleurs, de vos deux livres, aucun des deux n'est un traité d'esthétique, et c'est bien heureux que ça ne le soit pas. Parce que justement, ce que vous dites sur la justesse, vous le dites aussi d'une autre façon, Colette Nismazur, c'est-à-dire vous parlez de la justesse des mots, c'est-à-dire qu'en poésie, ce qui fait la beauté, c'est pas une élaboration esthétique très complexe, mais c'est bien une question d'être juste ou en accord, pour employer un terme musical, avec l'instant que l'on veut décrire ou dont on veut rendre compte.
J'ai toujours bien aimé ce que disait Victor Hugo, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et donc tout le travail de l'écriture, parce que moi je retravaille énormément mes textes, c'est d'essayer de trouver justement le mot qui va tomber juste en accord avec l'intuition, l'impulsion, la vision profonde. Mais je suis frappée par ce que vous venez de dire. Je me souviens d'un très beau livre de Michel Desbordes qui raconte, ça s'appelle La Demande, et elle raconte comment Léonard de Vinci, arrivant en France, se voit attribuer par François Ier une gentilhommière, et là travaille une femme toute simple qui est vraiment la femme à tout faire. Et Léonard de Vinci est fasciné par la beauté des gestes de cette femme, la façon dont elle tend la nappe sur la table ou les draps sur le lit, et il la regarde toujours. Et cette femme est intriguée parce que cet artiste immense qu'elle voit dessiner, dont elle admire les croquis, et il y a entre eux une sorte d'échange de beauté. C'est très très beau, ce livre-là. Ça rejoint tout à fait ce que vous dites de la beauté d'un geste. C'est en poche maintenant.
Et ça rejoint aussi ce que vous dites l'un et l'autre sur le fait que, alors vous dites, Colette Nismazur, la poésie est une expérience de vie, et vous employez presque une phrase semblable en disant que la beauté est d'abord une expérience. Alors, en quoi, Jean-Marie Guelette, vous considérez que la beauté est d'abord une expérience? Une expérience de vie, une expérience, alors on verra peut-être tout à l'heure dans l'émission, une expérience aussi épiphanique.
Oui, c'est surtout pas une expérience au sens scientifique du terme, c'est-à-dire quelque chose qu'on organise pour produire un résultat. Parce qu'à ce moment-là, je crois qu'il n'y a aucune chance qu'il y ait quelque beauté que ce soit si on est concentré pour se dire « Allez, quand je vais la rencontrer, je vais faire un geste, ça va être superbe. » Là, on est sûr qu'on va se planter complètement. Mais en revanche, c'est une expérience dans le sens d'un événement qui nous touche existentiellement et qui apparaît comme un pur don, on pourrait dire, qui nous est donné, quoi. Enfin, on s'y attendait pas et ah, on est saisi, on est, j'aurais tendance à dire aussi, on est arrêté peut-être tout d'un coup, ah, on regarde et ça nous est donné. C'est en ça que je pense qu'on peut parler d'une expérience. Ça nous est donné dans une interaction, c'est-à-dire que c'est pas un spectacle. la beauté d'un geste qu'on voit faire par quelqu'un d'autre, c'est pas, on ne regarde pas de loin. En fait, si on dit que c'est une expérience, c'est parce qu'on est saisi et ça rejoint quelque chose en nous. Mais c'est très difficile de parler de tout ça. Enfin,
Est-ce qu'on ne pourrait pas relier ça à ce que dit Rainer Maria Rilke de l'expérience, le fait que pour écrire le premier mot d'un vers, il faut avoir vécu énormément de choses. Il faut avoir été un enfant malade qui voyait arriver la maladie très loin, un enfant qui avait peur, un enfant à qui ses parents faisaient un cadeau et qui n'en voulait pas. Il était ingrat, c'était un cadeau fait pour un autre. Il dit qu'il faut avoir vécu des nuits de solitude, des nuits d'amour. Mais alors, toutes ces choses-là, il dit qu'il faut les oublier, attendre que le souvenir revienne. Et le souvenir, c'est encore rien du tout. Il faut que le souvenir revienne. Donc, forme une sorte d'humus. Et dans cet humus, à un certain moment, va naître, un jour faste, le premier mot d'un vers. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça dans ce que vous dites? C'est l'expérience comme un terreau dans lequel va surgir la beauté? Jean-Marie Guelette.
Oui, peut-être qu'en effet, nous sommes touchés par un geste que nous voyons faire parce qu'il rejoint quelque chose en nous, parce qu'il rejoint une expérience, y compris une expérience en creux, une expérience non faite. Mm-hmm. On voit faire un geste que peut-être à un moment de sa vie, on a rêvé que quelqu'un fasse pour nous, mais je serais prudent sur cet aspect-là parce qu'à ce moment-là, il y aurait un côté un peu de projection. Enfin, je vois faire ce que j'attendais et j'en jouis, je m'en nourris. Je pense que l'expérience de la beauté du geste, elle peut être, je sais pas comment dire, plus contemplative que ça. C'est-à-dire que, d'accord, elle entre en résonance avec des expériences, mais en même temps, on peut la contempler sans tout de suite la prendre pour se dire ça me rejoint moi.
Vous dites, Jean-Marie Guelette, très souvent ça se fait, la beauté d'un geste, c'est pas quelque chose qui se prépare sur une scène, mais c'est bien quelque chose qui est à trouver dans la banalité du quotidien, une façon de, non pas de réenchanter le monde, mais de voir que le monde est déjà enchanté puisqu'il est habité par des humains dont la vérité se révèle d'un coup dans un geste. Vous parlez plutôt de gestes compassionnel, Jean-Marie Guelette, de gestes de soins, par exemple, sur lesquels vous revenez très souvent. Mais cette idée que, finalement, la beauté, c'est pas quelque chose d'inatteignable, d'impossible à réaliser ou à rencontrer, mais quelque chose qui peut, ici et maintenant, soudain, survenir, et dans la plus pure banalité, ce qui la rend peut-être encore plus extraordinaire. Extraordinaire. Jean-Marie Guelette.
Oui, en effet, j'ai pas eu tellement envie de m'intéresser à des situations ni exceptionnelles ni visant une certaine esthétique comme la danse par exemple. Je trouve que c'est un peu, je la respecte tout à fait, mais pour moi c'est un peu un autre sujet. J'étais plus intéressé par cette contemplation en effet dans le quotidien de moments où surgit la justesse. Alors pas forcément dans le geste compassionnel, peut-être souvent dans la relation. Dans la relation à l'autre, mais pas uniquement, parce que ça peut être aussi dans la manière, dans une posture, dans la manière dont quelqu'un se tient et qui exprime en profondeur ce qu'il est. Mais en effet, je pense que ça nous est largement offert et qu'il faut avoir les yeux pour le voir, quoi. Enfin, c'est pas réservé à une élite, mais si on est tout le temps en train de ronchonner dans son coin, on verra rien, ça c'est sûr. Alors que si on a un petit peu l'œil ouvert, et c'est curieux parce que moi je suis pas très contemplatif dans la nature. J'aime beaucoup marcher dans la nature, mais ça me plonge pas dans des extases mystiques particulières. Alors que la beauté du geste, rassurez-vous, j'ai pas eu d'extase, mais ça me parle plus au plan spirituel que la nature. Je pense que là il y a un peu des sensibilités chez les uns et chez les autres.
Est-ce qu'il n'y a pas déjà dans l'émerveillement devant la beauté le désir du partage? De même que, par exemple, un poème va me parler, hop, tout de suite je vais l'envoyer à plusieurs personnes en disant peut-être que ça te parlera, sans l'imposer mais le proposer. Et quand je suis, par exemple, pour le moment, les arbres sont touchés par l'automne, et je ne peux pas m'empêcher, si je suis avec un enfant, un petit enfant, de dire, tu as vu? Regarde, mes petits-enfants parfois se moquent de moi et disent « Bonne maman, c'est bonne maman, regarde, un jour j'ai surpris trois petites filles qui riaient dans une pièce et j'entre, je dis « À quoi vous jouez ?»« On joue à bonne maman. » Et qu'est-ce que vous faites? On dit « Regarde !» comme c'est beau. J'étais touchée, mais je trouve qu'il y a dans la beauté quelque chose de contagieux, quelque chose, un désir de partage latent, me semble-t-il.
Peut-être qu'on va faire entendre la voix de certains de ces poètes que vous aimez beaucoup, Colette Nismazur, et que vous citez abondamment dans tous vos livres, et y compris donc dans celui-là, La vie poétique, j'y crois. Alors je dirais presque au hasard, mais pas tout à fait quand même, c'est un hasard un tout petit peu étudié, ce court poème de Desnos que j'aime beaucoup et qui fait écho à ce que vous venez de dire, et qui montre que tout ça est affaire de relations au fond. Je l'écoute, ce n'est qu'une voix humaine qui traverse les fracas de la vie et des batailles, l'écroulement du tonnerre et le murmure des bavardages. Et vous, ne l'entendez-vous pas? Elle dit « La peine sera de peu de durée ». Elle dit « La belle saison est proche ». Ne l'entendez-vous pas? Vous avez parlé de ne pas voir Jean-Marie Guelette, mais c'est un peu la même problématique. Il s'agit d'entendre cette voix quand elle se donne. Il s'agit de voir la beauté quand elle est là, et très souvent on passe à côté. Pourquoi?
Parce qu'on est plein. Parce qu'on n'est pas, oui, on n'est pas disponible. Vous savez, Eckhart dit toute image qui est présente dans l'âme est aussi grande que Dieu est grand, et Dieu est obligé de sortir. Donc, voilà. Moi, je trouve qu'il y a une expression qui dit bien ça. Elle n'est pas d'une poésie extraordinaire issue de la littérature mystique, mais c'est quand on dit « ça me prend la tête ». Quand on dit « ça me prend la tête », ça veut dire qu'il y a un problème, une difficulté qui prend toute la place et qui fait qu'on va être, indisponible à toute autre chose. Et donc, je pense que la manière de se rendre disponible à la beauté du monde ou à la beauté du geste, c'est aussi ça, c'est-à-dire de veiller à ce que les soucis, quelle que soit leur ampleur, quelle que soit leur réelle gravité ou leur pas très réelle gravité, ne prennent pas toute la place en nous, n'envahissent pas tout. Parce que si nous sommes pleins, on ne pourra rien accueillir.
Colette Nismazur.
Il y a aussi le mot « être satisfait ». C'est un mot que je déteste. Satisfait, c'est aussi être plein, être comblé. Il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de manque, il n'y a plus de possibilité d'ouverture. Ça me fait peur. Mais alors, ce qui me frappe aussi dans la beauté, c'est qu'elle surgit dans les endroits les plus incroyables. Je me rappelle de ce récit de Semprin, décrivant de façon très crue les séances où ils étaient tous aux chiottes sur une planche les uns à côté des autres, et où ils se récitaient.
Peut-être rappeler Georges Semprin, qui il était et pourquoi il était, où il était.
Cet Espagnol qui est arrivé tout jeune avec sa famille à Paris pour échapper à la guerre civile, et qui, à 20 ans, étant en Sorbonne, a été résistant, envoyé à Buchenwald. Là, il a retrouvé son professeur de philosophie à l'agonie, et pour le rejoindre, il lui a dit le poème de Baudelaire, « Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre ». Il a vu que son professeur était touché d'être encore reconnu comme une personne, alors qu'il n'était plus qu'un cadavre. Mais il raconte aussi, de façon plus triviale, mais aussi forte, que dans ces moments d'extrême dureté où tous ces hommes étaient juxtaposés sur ces planches trouées, il se récitait Valérie pour tenir le cimetière marin, pour tenir le coup. Donc la beauté, elle fleurit partout, dans les endroits les plus atroces. Ici, je viens d'accompagner une de mes amies qui est morte la nuit du 15 au 16 août, et les derniers temps, elle ne pouvait plus du tout parler, les derniers mois. Et comment est-ce qu'on se rejoignait? Elle écrivait encore sur une tablette, et moi, je lui disais des poèmes, je connais beaucoup de poèmes par cœur, et on se quittait, je priais pour nous deux. Et là, j'ai vraiment vu que la poésie restait jusqu'au bout, une planche de salut, un accompagnement. Donc la beauté, elle est en tout lieu, pas seulement dans la nature, pas seulement dans les gestes harmonieux, mais aussi dans les moments d'extrême détresse. Thank you.
France Culture, Les Racines du Ciel, Lélie Onvar.
Et ce qui me frappe dans ce que vous dites et dans ces expériences que vous rapportez, et effectivement dans l'œuvre de Georges Semprin, c'est très présent, c'est l'idée que on se dit c'est la poésie ou c'est la beauté malgré le mal. Et j'ai parfois, et c'est ce que vous suggérez Jean-Marie Collet, l'impression que c'est pas la poésie ou la beauté malgré le mal, mais parce qu'il y a du mal. Jean-Marie Collet.
Oui, en effet, dans l'expérience du mal, dans l'expérience du manque, peut-être que nous sommes particulièrement sensibles, peut-être hypersensibles, et que nous sommes disponibles pour ces expériences dont nous parlons, qui là aussi ne sont pas des expériences saturantes, quoi. C'est-à-dire que le discours poétique, il ne sature pas par définition, il suggère. Et la beauté du geste, c'est pareil. Mais on peut passer complètement à côté, quoi. Ça ne crie pas, ça ne vocifère pas, c'est tout léger. Et je pense que quand on est rendu hypersensible par une expérience tragique, on est encore disponible pour ces expériences-là dans leur délicatesse, alors qu'on ne supporterait pas le discours plein, quoi, le discours saturant.
Et c'est effectivement ce que vous racontez de l'expérience des camps, on le voit aussi dans beaucoup de témoignages, à travers des gestes qui ont sauvé. Alors je pense à Magda Hollander-Lafont qui raconte que, voilà, on lui donne, une femme lui donne 4 petits morceaux de pain et ce geste, au fond, l'a sauvée. Elle lui dit, il faut que tu survives, et elle lui fait ce don dans un univers où on est prêt à tuer pour avoir un morceau de pain. Et ce geste, alors, ça correspond exactement à la définition que vous donnez au geste dans la plénitude de sa beauté et de son humanité, où je pense aussi à cette femme dont le nom à l'instant m'échappe, mais qui raconte que c'est Simone Veil qui lui a donné une robe, et que cette robe qui l'a fait se sentir jolie a fait en sorte qu'elle a pu survivre en fait dans les camps. Donc Simone Veil, pas la philosophe, évidemment.
Et donc, on pense à qui nous s'ouvre, regardant les nuages au-dessus du camp. C'est ensemble, on ne pourra jamais me l'enlever, le passage des nuages,
oui,
dans le camp de Westerbork.
Mais ça, c'est la beauté naturelle. Oui. Je pense que ce dont parle Jean-Marie Guelette, c'est que dans ces gestes, d'un coup, de relation, de don, il se passe quelque chose. Alors vous dites, et là aussi, vous employez des vocabulaires qui se rapprochent, il se passe quelque chose dans la relation qui fait se révéler, c'est une sorte, vous dites, d'anthropophanie, ça fait se révéler la vérité profonde de l'humain, qui est en fait divine.
Je crois que c'est Primo Levi aussi qui raconte que une des choses qu'il a fait tenir pendant sa déportation, c'était le fait qu'il croisait tous les matins dans une usine un ouvrier libre, parce qu'ils étaient à la fois des déportés et des ouvriers libres. Ils n'avaient pas le droit de se parler. Et il dit, cet homme m'a regardé tous les matins comme un homme et ça m'a révélé à moi-même, enfin ça me faisait tenir dans ma dignité, je ne sais plus le terme exact. Mais je trouve ça, évidemment, c'est magnifique, quoi, cette relation dans le silence, cette reconnaissance par Primo Levi qui dit « cet homme m'a sauvé la vie en me regardant ». Et en même temps, là encore, vous voyez que si l'homme lui avait envoyé un regard lourd de signification, ça aurait été insupportable. Enfin, au bout de 2 jours, il lui mettait 2 baffes. Quoi. Et donc il fallait que ce regard soit à la fois fidèle tous les matins et en même temps extrêmement, extrêmement léger, pas uniquement parce que les SS pouvaient le voir, mais parce qu'un regard qui aurait voulu transmettre un message, comme on dit quelquefois, c'est insupportable. Enfin, c'est d'une grossièreté, je crois, tendance à dire, qui dans ces moments-là devient insoutenable.
Et vous expliquez tous les deux, là aussi, dans un vocabulaire quasiment identique, que justement l'expérience de la beauté est quelque chose qui ouvre une brèche dans notre intimité en respectant en même temps une distance à nouveau qui est juste. Jean-Marie Guelette, sur l'intimité, sur le fait que la beauté nous fait entrer.
Oui, si on pense par exemple à des gestes qui suscitent une expérience de toucher, moi je trouve que c'est absolument fascinant ça. Le fait que, que le même geste, si on peut dire, du genre poser la main sur une épaule, peut être d'une extrême délicatesse, faire une expérience de profonde reconnaissance, etc., peut être complètement intrusif. Et je trouve que c'est fascinant, parce que c'est uniquement, on serait des scientifiques, et heureusement on ne l'est pas, on pourrait dire, bah oui, c'est une différence de pression, de temps de grammes, de la phalange distale sur le muscle trapèze. Bah non, pas du, enfin, oui et non, mais ça n'est pas le problème. Mais ça, je trouve que c'est complètement fascinant, que le même geste, donc on ne peut surtout pas faire un catalogue des gestes qui seraient des bons gestes et d'autres qui seraient mauvais, je ne sais pas quoi. Mais oui, je veux dire, ça nous fait rigoler, mais en même temps, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a quand même des situations. On commence à nous dire, avec les enfants, on a le droit de faire ça, mais on n'a pas le droit de faire ça. Moi, je trouve ça complètement aberrant, parce que un regard de loin peut être pédophile, alors qu'une main sur une épaule peut être éminemment respectueuse. Donc, ce n'est pas le toucher qui est, par définition, pervers. Enfin, c'est le genre d'idées simplettes qui rassurent les foules, mais qui, je crois, vont déclencher des dégâts. Et donc, je pense que c'est vraiment très important de pouvoir entendre que, le même geste, suivant l'intention qui met le sujet qui le porte, le même geste peut être intrusif ou éminemment respectueux. Et ça, je trouve que c'est assez fascinant que là, pour le coup, on a le droit de faire une morale de l'intention. C'est pas toujours une très bonne chose, mais là, oui, parce que l'intention va charger ce geste d'un sens que l'autre va percevoir. Et donc l'autre va se sentir reconnu ou au contraire envahi.
Alors je voudrais aussi qu'on parle plus de la relation entre la beauté et cette expérience épiphanique, à nouveau, dont vous parlez et l'un et l'autre dans vos ouvrages. C'est-à-dire l'idée que la beauté me révèle à moi-même ma propre humanité, elle révèle aussi l'humanité de l'autre. Et ce faisant, elle nous dit quelque chose de l'invisible. Alors vous l'appelez le divin, parce que vous êtes dans une démarche de foi chrétienne, mais peut-être que le divin, Dieu, l'invisible, le Christ, enfin, ce sont des noms pour dire quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse infiniment l'homme. Colette Nismazur.
Oui, je donnerai simplement le nom de la vie avec un grand ou un petit V. Je crois qu'en tout être humain, il y a cette aptitude à la fois à découvrir et à créer de la beauté. Quand on voit les gestes de toute maman à travers le monde, sous n'importe quelle latitude et à travers les temps, cette façon de recevoir un tout petit, par exemple, ou bien le dernier contact avec quelqu'un qui va mourir, ou bien cette façon de relever quelqu'un qui est tombé, sont des gestes qui appartiennent à tout le monde, qui ne sont pas spécifiquement chrétiens. J'ai pas du tout ce sentiment de propriétaire, non. J'appartiens à cette nappe phréatique.
Jean-Marie Guelette.
Je suis pas complètement d'accord avec vous. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la conscience de la présence commune à un tiers. Enfin, le fait que dans ces expériences-là, c'est pas uniquement une expérience que un tel fait vivre à un tel. Il me semble que les expériences dont nous parlons ne sont pas à envisager comme suscitant une gratitude d'une personne à l'égard d'une autre personne parce qu'elle a fait un beau geste. Ça va plus loin. En fait, les deux vont être dans une gratitude à l'égard, c'est pour ça que je disais d'un tiers, c'est-à-dire que les deux vont considérer que ça leur a été donné, et non pas donné par l'autre, mais donné, ça leur a été donné. Donc là, en effet, ça traverse les temps, les latitudes, tout ce que vous voulez. Mais après, je ne crois pas qu'on puisse dire, oui, au milieu de tout ça, on peut dire, oui, le tiers, le Christ, tout ça, pareil. Ben non. Non, parce que on ne peut, enfin, si on nomme ce tiers comme le Christ, c'est parce qu'on établit une relation entre ce qu'on est en train de vivre et ce que le récit évangélique nous donne à contempler du Christ. Donc on ne nomme pas le Christ par hasard, et le Christ n'est pas simplement un nom parmi d'autres qu'on pourrait donner à l'altérité. Non, c'est dans un cadre d'interprétation particulier qui est celui qui va faire cet aller-retour permanent entre les gestes que nous vivons et les gestes qui sont présents dans un texte qui est l'Évangile, que nous allons peut-être nous dire cela a quelque chose à voir avec le Christ, mais c'est pas là pour le coup, c'est pas du commun. Enfin, puis moi, je dis ça non pas du tout dans une attitude de, l'attitude de propriétaire suspensionné, mais au contraire dans un grand respect, parce que je n'aime pas du tout qu'on puisse penser que des gens qui sont extérieurs à la foi chrétienne, ben en fait, ils parlent du Christ, mais sans le savoir, puis de toute façon, c'est pareil. Non, respectons-les. Et n'allons pas les enrôler, si on peut dire, de force, quoi. Non. Je crois qu'il n'y a de rapport entre les expériences que nous vivons et le Christ que dans un rapport entre les expériences et le texte et la référence à ce texte qui nous parle de lui et qui va nous permettre, si nous le voulons, de faire ce rapprochement. Mais je ne vais pas le faire au nom de quelqu'un d'autre.
Oui, et d'autant que ce texte, ces textes des évangiles, effectivement, réunissent les deux formes, si je puis dire, de beauté. Le mot semble très faible pour parler évidemment de cela, mais enfin, les deux formes de beauté dont on a parlé, c'est-à-dire la beauté d'une parole, alors la beauté complètement transcendante, puisque les paroles du Christ, ce n'est pas juste des paroles qui sont belles, ce sont des paroles qui sont tellement transformantes et tellement épiphaniques en elles-mêmes qu'elles deviennent des... Je ne sais pas comment les appeler, parce que le mot beauté semble faible, et aussi par les gestes, c'est-à-dire qu'il y a la combinaison dans la personne du Christ, telle qu'il se déploie en tout cas dans les évangiles, de la parole, qui est le lieu d'une transfiguration, mais aussi du geste qui transforme l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture, Jean-Marie Guelette ?
Oui, et puis j'irai même un peu plus loin, c'est-à-dire que pour faire cuistre, on va parler de cercle herméneutique, mais c'est quand même de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que les gestes que je vis ou que je vois trouvent un sens nouveau, différent, peut-être plus profond, parce que je les mets en relation avec ces gestes de Jésus dont l'Évangile se fait le témoin, et réciproquement, je vais peut-être enfin avoir l'impression d'entrer dans la compréhension ou dans une compréhension plus profonde de cette page de l'Évangile parce que j'ai vécu ce geste. Donc c'est pas uniquement le texte biblique qui viendrait éclairer notre quotidien, c'est tout autant notre quotidien qui nous permet d'entrer dans le texte biblique. Quand j'ai pas mal travaillé sur l'amitié et j'ai vraiment eu le sentiment que c'était de cet ordre-là, c'est-à-dire que à une époque où on stigmatisait l'amitié comme étant par principe une amitié particulière, très dangereuse, etc. Et bien, comme par hasard, les biblistes qui avaient été formés dans des séminaires où ils avaient entendu ce genre de doctrine, quand ils lisaient Jean 15:15, je ne vous appelle plus serviteur mais ami, souvent, leurs commentaires s'arrêtaient. Enfin, j'en ai pris, je pourrais dire, en flagrant délit, qui commentaient jusqu'à Jean 15:14 et puis qui recommençaient à quelques versets plus loin. Mais ils ne pouvaient pas entendre ça, parce que l'amitié, ça ne leur disait rien. Alors que si on est soi-même marqué par l'amitié, quand on va entendre ce verset, il va prendre une lumière extraordinaire. Et là-dessus, notre amitié va être tout à fait transformée parce qu'on va se dire « Jésus l'a vécu aussi ». Ben, je crois que dans l'ordre du geste, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'infirmière aux urgences qui régulièrement doit nettoyer les pieds de quelqu'un qui vient de la rue... Peut-être qu'un jour elle va tomber sur l'évangile de Jean qui raconte le lavement des pieds. Ce texte va peut-être illuminer complètement son exercice professionnel, mais en même temps son exercice professionnel va lui permettre d'avoir accès à la profondeur de ce qui se passe dans ce texte, enfin dans ce qui se passe dans ce récit.
Oui, c'est un récit d'ailleurs qui pour vous est tout à fait essentiel. Il y en a d'ailleurs une illustration sur la couverture de votre livre, mais peut-être que vous pouvez nous rappeler pour nos auditeurs exactement les circonstances de ce lavement des pieds, parce que c'est un des épisodes peut-être les plus, là aussi, extraordinaires qui est rapporté dans les évangiles, puisque évidemment tout se renverse. Jusque-là, on avait vu des femmes qui lavaient les pieds du Christ, qui séchaient ses pieds avec leurs cheveux ou qui parfumaient les pieds du Christ. Et puis là, soudain, c'est le Christ qui fait ce geste vis-à-vis de ses disciples. Mais peut-être que pour nos auditeurs, ce serait bien de remettre en contexte cet épisode.
Oui, donc c'est dans l'évangile de Jean, au début du long récit de la passion et de la mort du Christ. Donc chez Jean, il n'y a pas de récit de l'Eucharistie comme chez les autres évangélistes, mais il y a ce récit qui nous dit que alors qu'ils étaient à table pour le repas de la Pâque, Jésus s'est levé, a enlevé ses vêtements et donc a pris la posture de l'esclave et a commencé à laver les pieds de ses disciples, et que Pierre a dit que c'était tout à fait impensable, enfin, était tout à fait scandalisé par ce geste de Jésus. Et ça, je crois que ça pourrait aussi nous donner beaucoup à réfléchir, le fait qu'il y a des gestes qui sont insupportables, qui apparaissent comme insupportables. Et peut-être que là, on voit bien que ça vaut le coup dans ces cas-là de se dire, attention, c'est peut-être pas parce que c'est insupportable qu'il faut pas le faire. Il faut peut-être aussi se demander pourquoi. Et Jésus lui dit, si je ne fais pas ça, tu n'auras pas de part avec moi. Et Pierre, comme d'habitude, qui fonce toujours dans le décor, dit à ce moment-là, pas simplement les pieds, mais la tête, quoi. Enfin, allons-y, quoi. Mais donc, enfin, ce qui est tout à fait bouleversant, quoi, c'est de voir, en effet, Jésus qui se met dans une posture d'esclave, qui fait le dernier des gestes qu'on pouvait imaginer de la part d'un maître, quoi. Pour se mettre aux pieds de ses disciples. Et donc, dans l'Église catholique, on a gardé cette pratique, le jeudi saint, de faire ce geste. Et c'est le prêtre qui préside cette cérémonie qui le fait. Quand c'est l'évêque qui préside, c'est l'évêque qui le fait. Quand on est dans une communauté religieuse, c'est le père abbé, c'est le supérieur qui le fait. Et c'est extrêmement impressionnant de faire ça, hein. Extrêmement impressionnant de se mettre, d'enlever les vêtements liturgiques et puis d'enfiler un tablier et de se mettre aux pieds de ses frères et d'aller laver les pieds de ses frères. Et ce qui est, pour l'avoir fait un certain nombre de fois, j'étais toujours touché de voir comment les frères de ma communauté, quand j'ai eu l'occasion de le faire, certains se laissent faire et d'autres pas. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'un geste, c'est une... Vous diriez peut-être une coproduction, je dirais peut-être une concélébration, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que pour qu'un geste comme le lavement des pieds soit un moment juste, il faut que celui qui lave et celui qui est lavé soient aussi justes que possible. Or, dans nos cultures, c'est extrêmement difficile de se laisser laver un pied. On n'est pas du tout habitué. Donc c'était extraordinaire Vous essayez que l'autre pose son pied sur votre main et vous sentez des gens qui retiennent, et le pied qui se met à vibrer, parce qu'évidemment, tenir un pied en l'air, ce n'est pas facile. Et puis d'autres qui, au contraire, se mettent tout leur poids, quoi, se confient, quoi. Et donc, c'est des moments, c'est drôle parce que ça dure quelques secondes, hein, c'est pas grand chose, mais c'est des moments très, très profonds qui sont pas simplement des moments de communication. Là, pour le coup, il y a vraiment ô combien le tiers, parce qu'on sait au nom de qui on fait ça, on sait en mémoire de qui on le fait.
Oui, donc en fait, c'est vrai qu'on a coutume de penser que la grâce, c'est de pouvoir donner, mais la grâce, c'est aussi de pouvoir recevoir. Et vous en parlez aussi beaucoup, Colette Nismazur.
Oui, mais en écoutant Jean-Marie Guelette, je me disais, c'est en mettant au monde mon premier enfant que j'ai compris le sens du Notre Père. Tout à coup, ça m'a inondé cette révélation de l'amour inconditionnel. Donc il y a des gestes, le geste de mettre un enfant au monde, le geste de le mettre au sein, qui tout à coup nous font entrer dans cette révélation incroyable de l'amour inconditionnel, qui jusque-là était un peu une théorie. Oui.
À chaque fois, vous dites que ça se passe dans une relation, c'est-à-dire on s'occupe de l'autre, mais encore faut-il que l'autre sache accepter qu'on s'occupe de lui, ce que les bébés savent, évidemment, font tout à fait naturellement, ils laissent qu'on s'occupe de lui, d'eux. Puis après, avec le temps, on devient réfractaire, comme si on avait peur de recevoir cette chose qui est peut-être trop lourde à porter quand on ne sait pas comment la porter.
Surtout chez les hommes. En tout cas, en Occident, c'est très, très impressionnant de voir combien les hommes, au sens masculin de ce terme, ont de la difficulté à se laisser rejoindre par le geste. Et je pense que, alors, faut toujours se méfier des explications trop rapides, mais je pense qu'au moins une part d'explication de cela, c'est l'épouvantable confusion dans laquelle on est entre le corps et le sexe, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on croit être très lucide en croyant que tout ce qui est corporel est évidemment au fond sexuel, quoi. c'est une catastrophe, c'est une idée d'une bêtise, d'une brutalité terrible, et qui fait que je pense que des femmes sont moins dans ce genre d'idée, ce qui fait que des femmes acceptent beaucoup plus facilement de se laisser rejoindre par le geste et ont beaucoup plus facilement des gestes entre elles. Mais du côté des hommes, ça commence à bouger un petit peu, mais c'est très très complexe, parce que je pense qu'il y a toujours cette espèce de confusion. Et que, or, il faudrait qu'on arrive à avoir une pensée un tout petit peu plus fine et qu'on comprenne que c'est pas parce qu'on met une main sur une épaule qu'on a forcément envie de coucher avec la personne à qui appartient cette épaule. Enfin, il peut y avoir d'autres modalités de relation, quoi. C'est un peu plus subtil.
Oui, d'ailleurs, vous dites quelque chose de semblable sur la poésie, c'est-à-dire que les gens peuvent être aussi très gênés au début de recevoir la poésie. Et puis, quand ils font le pas, après, ils se laissent aller, mais il y a une gêne, une peur, une sorte de retenue, comme si la poésie...
C'était pour certains, pour une élite. Moi, la poésie, j'y comprends rien. Alors que, justement, le verbe comprendre, c'est prendre avec soi. Et donc, c'est incorporer. C'est pour ça que je crois que c'est tellement important d'étudier les poèmes par cœur et par corps, pour qu'ils nous habitent et qu'on puisse se promener avec eux et les partager. Oui, j'ai souvent, enfin, j'apprenais à mes élèves, à mes étudiants, à mes enfants, mes petits-enfants, des poèmes par cœur. Et au début, il y avait cette espèce de retenue et ensuite ce plaisir. Et quand j'en retrouve maintenant, ils me récitent des poèmes qu'ils ont appris, non pas pour les réciter, mais pour dire « ça m'habite », quoi.
Alors, vous nous faites aussi découvrir, Colette Nismazur, dans ce livre et aussi dans tous les autres, au fond, que vous avez écrits, y compris dans des anthologies que vous avez faites, vous nous faites découvrir beaucoup de poètes que moi, en tout cas, je ne connaissais pas. Je ne dirais pas que c'est des poètes inconnus, mais enfin inconnus de moi. Et Dieu sait que je suis amatrice de poésie. Et ce n'est pas le moindre charme, en fait, de votre travail que d'être vous-même habité par ces poètes et de nous le faire découvrir. Alors j'ai envie de lire, là aussi, parce que c'est en relation avec ce que nous venons de dire. Vous citez, par exemple, Louis Ruy, qui est un jésuite, qui a été longtemps directeur du collège Saint-Joseph d'Avignon. Et voici donc ce petit poème dans lequel on retrouvera certains thèmes que nous avons abordés. Peut-être faudrait-il que j'orne ma demeure, que j'étende un tapis précieux sous vos pas, qu'au lieu de vous attendre inactif d'heure en heure, je me hâte de préparer votre repas. Mais je suis triste et seule dans une maison vide, et vous savez que je n'ai rien à vous offrir, que j'attends les yeux secs, le cœur froid, l'âme aride. Vous le savez, Seigneur, et vous allez venir. Jean-Marie Golette, un commentaire sur ce poème ?
Surtout pas.
Surtout pas, merci. C'est vrai qu'il ne faut pas faire de commentaires sur la poésie.
Juste.
Mais il tombe juste, n'est-ce pas ? Pour conclure, juste, on n'a pas eu le temps de traiter cette question qui est évidemment très vaste, mais est-ce que vous seriez d'accord pour dire que regarder, reconnaître, recevoir la beauté est en fait une forme de prière, Colette Nismazur ?
Oui, pour moi, écrire un poème, respirer, prier, c'est tout à fait du même ordre.
Jean-Marie Golette.
Là encore, j'irai pas trop vite. Oui, c'est une attitude contemplative. C'est pas nécessairement une prière, parce qu'une prière, c'est, comme dit Jean-Louis Chrétien, une parole adressée. Et donc, je n'emploierai le terme de prière que si on est tourné vers Dieu. Donc je vais pas, une fois encore, essayer d'enrôler tout le monde, tous ceux qui sont touchés par la beauté, en disant « mais en fait, vous priez sans le savoir ». Ben non, peut-être pas. Ils sont dans une posture contemplative qui est très proche de la prière. Alors je comprends très bien que Colette puisse le dire en tant que croyante, mais je n'irai pas le généraliser trop vite, parce que la prière, elle est adressée à quelqu'un et à Dieu, reconnu comme un être personnel. Sinon, on est dans une attitude de contemplation, de présence éminemment respectable, mais que je n'irai pas trop vite nommer prière.
Bien, merci beaucoup pour cette précision. Merci en tout cas à tous les deux, Colette Nismazur et Jean-Marie Golette, d'être venu pour évoquer un peu trop rapidement un sujet sur lequel j'avais encore beaucoup, beaucoup de questions à vous poser, mais peut-être que ce sera dans une occasion future. Merci aussi à nos hôtes, le Salon Écriture et Spiritualité, et à sa présidente, la présidente de l'association du même nom qui l'organise, Karima Berger. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Lely en Var. La semaine prochaine, je recevrai Gabriel Ringlet pour nous parler de la célébration de la vie dans l'accompagnement de la mort. Tout de suite, nous retrouvons Frédéric Lenoir pour un nouveau volet des Chemins de Sagesse.
Nous avons vu que pour les philosophes grecs, et notamment Aristote, il n'y a pas d'opposition entre le plaisir et le bonheur, mais que le bonheur est la recherche d'un état global et durable de satisfaction, alors que le plaisir est un moment éphémère. Un autre grand philosophe qui s'est penché sur cette question, c'est Épicure. Épicure a vécu quelques décennies après Aristote, également à Athènes, et il a également insisté sur la nécessité du plaisir. Il était dans une controverse, en fait, avec un de ses prédécesseurs qui ne croyait pas, finalement, que le plaisir était utile. Je parle de Speusippe, qui est un disciple de Platon, qui a succédé à Platon à l'Académie, alors que ça aurait dû être Aristote. Et finalement, Speusippe nous disait, il faut fuir les plaisirs, parce que les plaisirs nous égarent, les plaisirs nous empêchent d'accéder à la contemplation de l'âme, donc le corps est un peu dangereux. Et Épicure va réagir en disant, mais pas du tout. À la suite d'Aristote, il va insister sur le fait qu'il n'y a pas de bonheur sans plaisir. C'est pour ça qu'on fera d'Épicure le philosophe du plaisir par excellence, voire de la jouissance. Or, il ne s'agit pas tout à fait de ça. Épicure nous dit qu'il n'y a pas de bonheur sans plaisir, et qu'effectivement, il ne s'agit pas de renoncer au plaisir, et surtout pas au plaisir corporel, mais il nous dit en même temps que le bonheur vient de la sélection des plaisirs, d'une opération rationnelle qui va nous permettre de sélectionner quels sont les plaisirs qui sont bons pour nous, quels sont les plaisirs qu'il faut éviter. Et puis la deuxième chose qu'il nous dit, c'est que il y a également des plaisirs qu'il faut modérer. C'est-à-dire que bien souvent, on recherche l'intensité des plaisirs, on cherche le plaisir maximal. Épicure observe tout simplement que lorsqu'on est dans trop de plaisir, ça tue le plaisir. Ou en tout cas, ça tue le bonheur. C'est-à-dire que trop de plaisirs peuvent empêcher un équilibre de vie, peuvent empêcher une paix durable, peuvent empêcher finalement d'être dans une forme de sérénité, de paix intérieure. Et on voit donc chez Épicure que le but recherché, c'est la sérénité, c'est la paix, c'est la tranquillité de l'âme, c'est quelque chose qui nous permet de savourer l'existence paisiblement, sans être dans les excès. Alors, à la suite d'Aristote, ils sont très proches finalement, Épicure et Aristote, à la suite d'Aristote, il condamne effectivement les excès. Il est dans la recherche d'une forme de juste milieu. Et Épicure nous explique qu'il est effectivement important de vivre tout ce qui est toute la recherche des désirs qui sont naturels, nécessaires, comme manger, boire, se vêtir, avoir un toit, mais qu'il y a aussi des désirs qui sont non nécessaires, comme avoir des beaux vêtements, une cuisine raffinée, et puis des désirs qui ne sont ni naturels ni nécessaires, ce qu'on pourrait appeler le grand luxe, le pouvoir, les honneurs. Et donc, il suffit selon lui de se satisfaire des plaisirs naturels pour être heureux. Les seconds qui sont à la fois naturels et non nécessaires peuvent être recherchés, mais il vaudrait mieux y renoncer. Et puis les derniers, il faut les fuir. Et aujourd'hui, évidemment, on est plutôt dans la recherche des plaisirs les plus grands, les plus extrêmes, le luxe fascine. Donc on n'est pas du tout épicurien. Lorsqu'on recherche les plaisirs les plus raffinés, lorsqu'on recherche les choses les plus chères, c'est très très éloigné. Au fond, Épicure nous parlerait de la sobriété heureuse. Et Pierre Rabhi en parle à merveille aujourd'hui, il est totalement épicurien. Puisque pour Épicure, il faut rechercher la sobriété. Il faut rechercher une vie simple. Il nous dit, dans tous les domaines, il vaut mieux manger des mets de qualité, une nourriture de qualité, boire du bon vin, mais en petite quantité, plutôt que de chercher des mets raffinés, compliqués, et d'en manger en grande quantité. Il vaut mieux, nous dit-il, avoir peu d'amis, mais savoir prendre le temps de les voir et de les savourer, ces relations amicales, plutôt que d'avoir beaucoup d'amis. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui à l'époque de Facebook ? Donc on voit qu'Épicure favorise toujours la limitation, la modération, la sobriété. Ce qui est tout à fait à l'opposé de l'image que nous avons d'Épicure, philosophe de la jouissance et presque de la débauche. Alors, on connaît tous un grand nombre de restaurants qui s'appellent le jardin d'Épicure. Alors ça devrait être, s'ils étaient vraiment épicuriens, des restaurants où ils nous proposent des choses sobres en petite quantité mais en grande qualité, qu'on peut déguster avec quelques amis. Alors, il nous montre que la vertu suprême, c'est la prudence, la phronesis en grec, c'est elle qui permet d'avoir un juste discernement des plaisirs et des peines. Et Épicure nous dit, tout plaisir parce qu'il a une nature qui nous est appropriée est un bien. Et pourtant, tout plaisir n'est pas à choisir. De même, toute souffrance est un mal, mais toute souffrance n'est pas toujours par nature à rejeter. Au fond, ce qui compte pour Épicure, c'est l'ataraxie, qui signifie la quiétude absolue de l'âme. Et cet état s'obtient par la suppression des craintes imaginaires et superstitieuses. C'est pour ça que Épicure nous dit qu'il faut mieux ne pas croire aux dieux et ne pas craindre la mort, parce que ce sont pour lui des craintes superstitieuses. Mais qu'il faut, pour atteindre à cette ataraxie, à cette quiétude de l'âme, il faut pouvoir discerner quels sont les plaisirs qui sont bons pour nous et arriver à les modérer. Alors, il y a une grande différence entre métaphysique, on pourrait dire, entre Épicure et Aristote, puisque Aristote croit en l'immortalité de l'âme, du nous, alors que Épicure, qui est dans une vision plutôt atomiste, celle de Démocrite, n'y croit pas. Il est plus matérialiste, on dirait aujourd'hui. Épicure ne croit pas aux dieux. Épicure ne se préoccupe essentiellement que d'une qualité de vie, une sagesse de vie, qui ne se préoccupe pas de la mort et de l'au-delà, et qui en même temps rejoint celle d'Aristote par cette recherche d'une qualité et d'un juste équilibre des plaisirs. Et c'est ainsi que le bonheur peut être atteint parce qu'on a su, grâce à la raison, et c'est là que la philosophie est pour lui le moyen par excellence d'être heureux, par la raison, par des raisonnements et des discours, discerner quels sont les plaisirs qui sont bons pour nous et éliminer ceux qui sont mauvais pour nous. Voilà donc comment la philosophie, pour Épicure comme pour Aristote, nous permet d'atteindre le bonheur. C'est à la fois une activité qui recherche la vérité sur un plan théorique, mais c'est aussi une discipline, la philosophie, qui recherche la vérité sur un plan pratique et qui nous permet d'atteindre le bien suprême qui est le bonheur.
Je vous rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Dans quelques instants, le journal de la rédaction de France Culture. Très bon dimanche à tous.